Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
La première des constellations que je vous propose de découvrir, vous l'avez sûrement déjà repérée. Elle est très visible et très facilement repérable au nord du ciel d'été. C'est Cassiopée. Elle est très facile à reconnaître parce qu'elle a la forme d'un grand W. Relativement isolée, elle est composée d'étoiles brillantes. C'est une des premières constellations qu'on voit le soir. Avant de vous parler de Cassiopée, j'aimerais vous parler un peu de l'histoire des formations des constellations. De tout temps, les hommes ont regardé le ciel étoilé, et les étoiles ne bougeant pas les unes par rapport aux autres, de notre point de vue terrestre, les premières sociétés ont regroupé ces étoiles, les ont nommées et y ont associé des histoires mythologiques. Les plus anciennes traces de nommage des étoiles que nous ayons remontent aux civilisations mésopotamiennes. Des tablettes datées de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, référence des étoiles. Dans la cosmogonie, c'est-à-dire dans l'histoire de la formation du monde en Mésopotamie, Marduk, le roi des dieux, a créé pour chacun des dieux une étoile qui le représente. Ainsi, les dieux, résidant dans le ciel intermédiaire, sont représentés par une étoile dans le ciel inférieur, qui lui est visible depuis la terre. Le ciel supérieur étant réservé à Marduk, le roi des dieux. Puis, aux alentours de 1200 avant notre ère, les premières traces de constellations apparaissent, mentionnées sur des stèles de donation. Comme par exemple une stèle trouvée à Suse et conservée au musée du Louvre, mentionnant une donation de Mélichipak, le roi de Babylone, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, à son fils, sur lequel est fait mention de deux divinités, représentées par des figures astrales, le Capricorne et le Scorpion. Plus tard, les Grecs ont voulu eux aussi reconnaître dans les formes qu'ils identifiaient dans le ciel de la nuit des représentations de leur divinité. Ils ont aussi voulu avoir une approche plus scientifique, voulant mesurer, comprendre, prévoir. Mais nous en reparlerons dans une prochaine émission. Revenons plutôt à notre W. Les Scandinaves y voyaient cinq reines qui tiraient un traîneau. Les Grecs, eux, y voyaient une reine, Cassiopée, l'épouse de Céphée, roi d'Éthiopie, qui prétendit un jour que sa fille, Andromède, était plus belle que les Néréides, des nymphes de la mer pourvues d'une beauté incroyable. Outrées par cette insolence, les nymphes demandèrent à Poséidon, dieu de la mer, de les venger de cette insulte. Poséidon se mit en colère. Vous verrez que Poséidon se met très souvent en colère. Et le dieu envoya un énorme monstre marin appelé Cétus ravager les côtes d'Éthiopie. Cétus comme cétacé. On peut donc facilement imaginer une énorme baleine. Les tempêtes furent si violentes que, paniqué, Céphée alla demander conseil auprès de l'oracle d'Amon en Libye. La cause du malheur provenant de la beauté d'Andromède, l'oracle dit à Céphée que la seule façon de sauver son royaume était de sacrifier sa fille Andromède au monstre. Dans la douleur, Andromède fut attachée à un rocher du rivage et donnée en pâture au dragon. Mais tout à coup, venant d'arracher à Céphée la promesse de lui donner la main de sa fille, en échange de sa libération, le héros Persée surgit sur les dos de son cheval ailé, Pégase, en ayant dans sa besace la tête d'une des gorgones, la tête de Méduse, qu'il avait gagné dans son combat précédent. Plutôt que de lancer contre le monstre d'inefficaces javelots et de risquer de se faire dévorer, Persée se contenta d'agiter la tête de la méduse devant le monstre marin, qui se transforma aussitôt en statue de pierre. Pour se souvenir qu'il n'est jamais bon de se vanter, les dieux décidèrent de nommer des constellations en l'honneur des protagonistes. Andromède, Persée, Céphée, Cétus et enfin Cassiopée. Mais pour punir l'orgueil de la reine Cassiopée, ils décidèrent de l'enchaîner à son trône et de la condamner à tourner autour du pôle, tête en bas. Et c'est ce qu'on voit dans le W, c'est la reine Cassiopée assise sur son trône. Et parfois, suivant la saison et l'heure de la nuit, Elle pend à l'envers de façon bien peu digne. En effet, la constellation Cassiopée, car elle est proche de l'étoile polaire, tourne autour du pôle sans jamais disparaître à l'horizon. C'est ce qu'on appelle une constellation circumpolaire. Étymologiquement, ça veut dire qui tourne autour du pôle. D'autres étoiles plus loin du pôle disparaissent sous l'horizon et donc ne sont plus observables en fonction de la saison ou du lieu d'observation. Savez-vous par exemple que dans l'hémisphère sud, les étoiles que l'on voit ne sont pas du tout les mêmes ? Cassiopée, par exemple, ne peut pas être vue depuis l'hémisphère sud. Cela est dû à la révolution de la Terre autour du Soleil, car au moment où nous pouvons regarder les étoiles, nous sommes dos au Soleil. Et comme la Terre bouge chaque jour un petit peu autour du Soleil, nous faisons face à différentes parties de l'univers. La rotation de la Terre sur elle-même fait que nous voyons certaines constellations en début de nuit et d'autres plutôt en fin de nuit. On peut donc classer les étoiles en trois zones. Le cercle circumpolaire visible, c'est-à-dire les étoiles et les constellations que nous pourrons voir toute l'année. Les étoiles saisonnières, qui apparaîtront ou non en fonction de la période de l'année. Et le cercle circumpolaire invisible, les étoiles que nous ne verrons jamais, car elles resteront toujours derrière notre horizon. On dit que les étoiles visibles depuis l'hémisphère nord appartiennent au cercle circumpolaire septentrional, alors que dans l'hémisphère sud, on parle de cercle circumpolaire méridional. La taille de ces zones dépend de l'endroit où vous observez. Si vous êtes au pôle Nord, par exemple, vous verrez toujours la même moitié du ciel, quelle que soit la saison. Même chose au pôle Sud, avec l'autre moitié de la voûte céleste. À l'équateur, en revanche, il n'y a pas de constellation circumpolaire. Dans nos latitudes, entre 40 et 50 degrés Nord, les constellations circumpolaires peuvent inclure la Grande Ourse, la Petite Ourse, le Dragon, Céphée, Cassiopée et la constellation de la Girafe, mais qui n'est pas très connue.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
Revenons à Cassiopée, cette constellation en forme de W. Les astronomes nomment en général les étoiles avec une lettre grecque à l'intérieur de leur constellation. Par exemple, pour Cassiopée, les cinq étoiles les plus brillantes sont nommées d'est en ouest, Eta Cassiopée, Delta Cassiopée, Gamma, Alpha et Beta Cassiopée. Certaines étoiles, surtout les plus brillantes, ont leur nom propre, souvent issu de l'astronomie arabe. Par exemple, Alpha Cassiopée s'appelle Shedar, ce qui veut dire la poitrine en arabe. Elle est l'étoile la plus brillante de la constellation. Cette étoile est une géante rouge, elle est 42 fois plus grande que notre Soleil et presque 900 fois plus lumineuse. Il semblerait que la fusion de l'hydrogène ait cessé dans son noyau et que celle de l'hélium ait pris le relais. Cela signifie que cette étoile a passé la plus grande partie de sa vie et s'approche de sa fin. L'étoile du centre du W, Gamma Cassiopée, bien que située au centre de la constellation et aussi brillante que les autres, ne possède pas de nom laissé par les civilisations méditerranéennes. En Chine, cependant, elle est nommée Tsi, le fouet. Tsi est une étoile variable. C'est une étoile bleue, de type BE, bleu émission. Les étoiles de ce type ont des rotations très rapides. Tsi tourne sur elle-même à plus de 300 km par seconde, à son équateur. C'est 150 fois plus vite que notre Soleil. Et cette rotation entraîne des pertes de matière. La matière de l'étoile se répand dans l'espace autour d'elle et crée des tores ou des disques autour de cette étoile, et la perte de matière s'accompagne d'une baisse de la luminosité. Mais Cassiopée, ce n'est pas que les cinq étoiles très brillantes qui forment le W. Une constellation est en effet une région du ciel nocturne. Et donc, toutes les étoiles présentes dans cette zone, autant les plus proches de la Terre que celles qu'il y a au fond, jusqu'au fond de l'univers, toutes celles-là font partie de Cassiopée. Et ça représente beaucoup plus que cinq. Par exemple, Cassiopée comporte, en plus des étoiles, des objets très intéressants. D'abord, la première supernova qui a été répertoriée dans toute l'histoire humaine. C'est l'étoile de Tycho, qui doit son nom à l'astronome danois Tycho Brahe, qui observa en 1572 une supernova. Alors qu'il avait pointé son télescope vers Cassiopée, à la recherche de comètes, il remarqua un nouveau point lumineux, qui n'était pas présent sur ses cartes. En fait, il n'est pas le premier à l'avoir vu, mais il est celui qui en fit les relevés les plus précis. Cette nouvelle étoile va devenir aussi brillante que Vénus, et au fil des jours, elle deviendra même visible en pleine journée. Puis, sa luminosité diminuera et elle ne sera plus visible à l'œil nu 18 mois après son apparition, c'est-à-dire en mars 1574. Alors, qu'ont pu penser ces observateurs ? À une comète ? À une planète ? Depuis l'Antiquité, le monde au-delà de l'orbite lunaire était considéré comme éternellement immuable, selon un axiome aristotélicien. Un objet céleste nouveau ne pouvait donc pas apparaître derrière la Lune. Il devait apparaître entre la Lune et la Terre. Or, Tycho Brahe observe qu'au cours de la journée, sa position ne change pas du tout, contrairement à la Lune et aux planètes proches, dont l'observation est influencée par la position de l'utilisateur, car elles sont beaucoup plus proches de lui. Ce phénomène s'appelle la parallaxe. Et grâce à la parallaxe, il déduit que cet objet céleste est beaucoup plus loin que la Lune ou les planètes. En outre, après plusieurs mois d'observation, Tycho Brahe constate que l'objet n'a pas modifié sa position par rapport aux étoiles fixes, ce qui là encore la distingue des planètes. Tycho Brahe en vient donc à la conclusion que cet objet céleste apparu soudainement n'est pas une planète, mais une étoile fixe. Il publie alors sa découverte au cours de l'année suivante dans un petit livre qui s'appelle « De Stella Nova ». Il utilise l'expression « nouvelle étoile », totalement révolutionnaire pour la science de l'époque. Cette étoile, identifiée par les astronomes comme SN 1572, est maintenant classée dans les supernovas, et nous savons qu'elle se trouve à 7500 années-lumière de la Terre. Je vous reparlerai des supernovas et de leurs mécanismes dans une prochaine émission. Cassiopée comporte aussi des nébuleuses, comme celle de Pac-Man. Son nom est dû à sa forme, qui évoque le personnage des jeux vidéo. Vous pourrez l'observer avec un télescope amateur dans un ciel bien sombre. Et puis, il y a aussi la nébuleuse du cœur et celle du poisson, dont nous avons des clichés absolument époustouflants. Retrouvez sur le site de Radio Présence des informations complémentaires ainsi que d'incroyables images des nébuleuses de Cassiopée. Vous pourrez aussi y retrouver cette émission en podcast.